Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Écoute, pour commencer cette émission, juste un petit clin d'œil, là, c'est rien de vilain, c'est juste, mais je suis partie à rire parce que je reçois les communiqués de Radio-Canada qui nous indiquent quels sont les invités dans différentes émissions. Alors, vous savez qu'à Radio-Canada, il y a une sorte de talk show sur les animaux, ça s'appelle Les Poilus. Et pour la quatrième saison, on nous annonce que la première invitée, c'est tellement original, c'est Véronique Cloutier. Et c'est vrai que Véronique Cloutier, elle souffre vraiment d'un manque de visibilité. On l'entend pas assez parler. On l'avait entendu sur tout plein de sujets, Véronique Cloutier. Malheureusement, jusqu'ici, on l'avait pas encore entendu parler de son animal de compagnie, de, je sais même pas si c'est un chien ou un chat qu'elle a, mais n'ayez crainte, hein. On va tout savoir sur son amour des animaux à cette première émission de la saison des Poilus. Quand j'ai vu que à cette émission-là, la première invitée, c'était Véronique Cloutier, qui vraiment, là, on l'a pas assez entendu sur ces sujets-là, j'ai poussé un grand « ben voyons donc ».
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
C'était un jugement très attendu, le jugement Blanchard sur la loi 21. Donc, la loi est maintenue, mais dans les faits, il y a quand même des différences majeures. Premièrement, on dit que dans les commissions scolaires anglophones, la loi 21 ne s'applique pas. Et à l'Assemblée nationale aussi, la loi 21, donc, ne s'appliquera pas. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois, journaliste, auteur, commentateur. Bonjour Jean-François.
Bonjour Sophie.
Surpris, pas surpris de la décision du juge Marc-André Blanchard?
Non, c'est à peu près dans le corridor attendu, parce que c'est très... c'est pas une anomalie, le jugement. Il est dans le respect de cette Constitution et de cette Charte des droits auxquels on n'a jamais consenti, et dans la continuité de la jurisprudence, sauf pour la grande créativité qu'il a eue pour essayer d'étirer les droits linguistiques anglophones pour y trouver une capacité de gérer le personnel de façon différente du reste du Québec. Ça, c'est complètement nouveau. Évidemment, c'est ce que prétendait la commission scolaire anglophone devant lui, mais on s'attendait pas à ce que il fasse du droit.
Il leur donne raison. Oui,
ça, exactement.
Parce que dans les faits, en effet, c'est sûr que c'était donc la commission ESBM, la English School Board of Montreal, qui était une des parties dans cette contestation. Mais on s'attendait pas nécessairement à ce que le juge dise « oui, vous avez raison ». Et ce qui est une des conséquences de ça, c'est que dans les faits, il va y avoir deux sortes de citoyens au Québec. Il va y avoir ceux qui travaillent ceux qui travaillent en anglais, ceux qui travaillent en français. Ils ne seront pas soumis aux mêmes lois. C'est quand même une aberration, Jean-François, quand on regarde ça.
Oui, c'est une aberration. Ah bon, c'est grave parce que, d'abord, cette constitution que je n'aime pas beaucoup n'a pas été écrite pour ça. On dit que les minorités linguistiques, donc anglophones au Québec, francophones dans le reste du Canada, ont droit à la gestion de leurs institutions scolaires au primaire et au secondaire. Alors, la gestion, c'est pour faire en sorte qu'ils aient des écoles en français. La jurisprudence se dit, ben, c'est important la langue, c'est important la culture. Très bien.
Mais oui.
Maintenant, si ça s'applique à des aspects de gestion du personnel qui peut être distinct du reste de la province, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses dans le code du travail qui devraient pas s'appliquer non plus. Je veux dire,
c'est, ben, c'est voilà.
Exact.
Mais c'est qu'il ouvre la porte, mais t'as tout à fait raison, et il ouvre la porte, et c'est un petit peu, ben, je veux dire, Richard, mon mari, dans sa chronique de ce matin, dit, c'est un petit peu comme si on disait, ben, mettons que cette loi s'appliquait aux camionneurs. T'es un camionneur francophone, tu dois pas circuler sur les routes à plus de 100 km/h, mais si t'es anglophone, t'as le droit de circuler à 120 km/h. C'est un petit peu ça, le message que le juge Blanchard envoie.
Exact. Donc, il ouvre une brèche, là. Peut-être que la Cour d'appel va fermer cette brèche-là. On ne sait pas du tout ce que la Cour suprême va faire. Mais ce que ça signifie aussi, hein, c'est que, bon, le juge, on le sait là, on le savait dans un jugement précédent qu'il avait prononcé pour la loi des libéraux qui interdisait le voile intégral. Ce qu'il vient de faire, le juge Blanchard, c'est de dire... Dans les écoles primaires et secondaires anglophones du Québec, une enseignante peut porter le niqab ou la burqa qui est le symbole ultime de l'oppression des femmes.
C'est absolument.
Ça qu'il vient de dire. Hein?
Oui, bon. Absolument.
Il vient de dire aussi que il y a une deuxième chose, c'est que une personne comme celle-là pourrait siéger à l'Assemblée nationale. Bon, c'est très peu
absolument.
Probable qu'il y ait où que ce soit au Québec suffisamment de gens qui votent pour cette personne-là. Mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est que l'Assemblée ne peut pas décider d'exclure de son Assemblée une personne qui porterait ce symbole. Alors, évidemment, ça montre la fracture entre la volonté nationale québécoise et la logique juridique canadienne. C'est ça que ça montre. Je le blâme pas, lui. Hein? Bon, on voit bien que son opinion personnelle sur cette question-là est extrêmement ancrée. Il considère que c'est un droit fondamental de porter des signes religieux et il est outré de l'existence de la loi. Mm-hmm. Il décide que la clause dérogatoire permet au Québec de faire ces choses épouvantables, sauf dans les deux cas dont on vient de parler. Mais c'est grave ce qu'il a fait pour les anglophones puis pour l'Assemblée nationale, mais ça aurait pu être pire parce que si on crée du droit nouveau parmi ceux qui contestaient la loi, il y avait toutes sortes d'arguments pour déclarer que la clause dérogatoire ne devrait pas s'appliquer. Et il aurait pu décider d'aller encore plus loin et de dire, compte tenu de l'évolution, les arguments c'était ça, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence depuis 40 ans, compte tenu des traités internationaux que le Québec, que le Canada a signés ces dernières décennies, on ne peut plus déroger à la Charte des droits comme on le faisait avant et certainement pas de façon préventive comme le fait le Québec. Il aurait pu faire ça, il ne l'a pas fait. Est-ce que la Cour d'appel va aller là? Est-ce que la Cour suprême va aller là? On ne le sait pas. C'est seulement une première étape, mais il a créé ces deux classes de citoyens québécois, et ça, vraiment, c'était inattendu.
Oui, et je veux revenir quand il parle justement des arguments qui ont été utilisés, entre autres par PDF, là, donc pour les droits des femmes du Québec, pour le Rassemblement pour la laïcité, le mouvement laïque, etc. Un des éléments, c'était de dire, ben, il y a la liberté de conscience des étudiants, des élèves, et donc la liberté de conscience voudrait que un enseignant ne porte pas de signes religieux parce que c'est une forme de prosélytisme et il faut que les étudiants soient neutres. Et à cet argument-là, le juge Blanchard répond en disant, au contraire, il est important que les étudiants québécois soient exposés à toutes sortes de monde qui ont toutes sortes de signes religieux parce que ça reflète le Québec multiculturel. Et là, j'avoue que je suis un peu baba devant cet argument-là. C'est comme si on disait, ben, je veux dire, de toute façon, les étudiants québécois, je m'excuse, ils se promènent dans la rue, regardent la télé, je veux dire, ils envoient des gens qui portent le voile ou qui portent la kippa. Ce qu'on demandait, ce que les gens demandaient, c'était que dans le contexte scolaire, des gens qui représentent l'État ne portent pas de signes religieux. Donc, est-ce que le juge Blanchard est en train de nous dire qu'il aurait aucun problème, par exemple, à ce qu'un enseignant porte un t-shirt disant les vaccins sont un complot de Bill Gates, ou qui porte un t-shirt en disant moi j'aime pas les gays parce que il y a des gens dans la population québécoise qui pensent ça?
Ben, justement, il fait cette distinction-là. Donc, tous ces arguments ont été rejetés. Puis ça, c'est des questions... C'est son opinion personnelle qui est en phase avec la jurisprudence et le droit canadien. Mais on sent bien que il est très convaincu de ce qu'il dit sur la question religieuse. Alors, l'argument de PDF Québec en disant l'école primaire et secondaire doit être un sanctuaire non religieux, ça ne l'intéresse pas. Lorsqu'on lui a dit, en Europe, c'est différent, dis-moi ce que j'applique, c'est le droit canadien. Ensuite, on lui a dit, on aimerait que le Québec, qui est distinct, puisse développer une façon autre de le faire. J'ai dit, ça, c'est votre problème. Moi, j'applique le droit canadien. Mm. Et là, sur l'argument, exactement, qui a été fait en disant, il y a une interdiction aux enseignants de porter des signes syndicaux ou de convictions autres. Lui, sa réponse, c'est que cette violation-là de leur droit à l'expression, et là, je le cite, je l'ai devant moi, n'atteint pas l'âme ou l'essence même de cette personne, alors qu'en empêchant le port d'un signe religieux pour ces personnes, on se trouve à nier l'un des fondements même de leur être. OK? Alors, donc...
C'est fort, lui, ça!
C'est fort. Donc, il avale complètement la théorie des orthodoxes religieux disant que le signe religieux... c'est notre âme ou notre essence. Puis moi, ma question, c'est, OK, quelle est la preuve que vous avez eue devant vous, d'abord, de l'existence de l'âme? Ça, c'est intéressant. On a un jugement de la Cour supérieure qui dit que l'âme existe.
Existe! T'as tout à fait raison, Jean-François.
Je suis pas contre en soi, mais j'aimerais voir la preuve, parce que c'est une grosse nouvelle. On la cherche depuis des millénaires. Bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais on n'a jamais démontré son existence. Et donc, le fait que, par exemple, des religieux portent ou ne portent pas des signes religieux à l'intérieur de la même religion, que certains religieux la portent parfois et parfois ne la portent pas, ou que ça change d'une décennie à l'autre selon les religions, ça ne l'intéresse pas. Pour lui, c'est pas une preuve que ce n'est pas absolument essentiel à son être. Et d'ailleurs, dans le jugement, il ne dit pas ces gens-là se seraient obligés de faire le compromis douloureux pour eux d'enlever leur signe religieux pour travailler. Ils disent ils peuvent pas travailler. Ils peuvent pas parce que c'est leur être même. T'sais? Alors que quelqu'un qui a passé sa vie à lutter, tu sais, Daniel Green, est-ce que c'est pas de son essence même de lutter pour l'environnement? Non.
Absolument.
Non, c'est pas René pareil. Lévesque, est-ce que c'est dans son essence même d'être indépendantiste? Non. Parce que c'est le primat de la conviction religieuse sur les autres convictions qui est dans ce jugement-là.
Et écoute, si j'avais été avocate et que je m'étais présentée devant le juge Blanchard, je lui aurais répondu, Monsieur le juge, en tout respect, votre honneur, quelqu'un qui porte le voile, qui porte la kippa, qui porte une croix, quand il arrive à la maison, il l'enlève, pour quelque chose d'aussi prosaïque que prendre sa douche. Je pense qu'il y a aucune femme voilée qui prend sa douche avec le niqab, avec le hijab. Je connais beaucoup de gens juifs qui portent la kippa. Je pense pas qu'ils prennent leur douche avec la kippa. Donc, est-ce que au moment où ils prennent leur douche, est-ce que à ce moment-là leur âme est atteinte? Tu comprends ce que je veux dire? C'est que on dit que le fait d'enlever pendant leurs heures de travail leur signe religieux, c'est une atteinte profonde à leur âme. Mais je veux dire, quand ils rentrent à la maison, ils l'enlèvent. Quand ils prennent leur douche, ils l'enlèvent. Quand ils se couchent le soir, ils l'enlèvent. Donc, pendant ces périodes-là, leur période de sommeil, ils sont en train de porter atteinte à leur âme. Ça tient pas debout deux secondes, Jean-François?
C'est la prétention des orthodoxes religieux qui était devant lui, et c'est ce qu'il a décidé de prendre. Mais effectivement, je veux dire, en France, depuis 100 ans, les religieux enlèvent leurs signes avant d'entrer dans quelque emploi de l'État que ce soit, y compris à l'hôpital, le remettent après. Et selon la preuve accumulée depuis 100 ans, Dieu ne les a pas empêchés d'entrer au paradis. Selon la preuve que nous avons. Bon.
Oui. Je dirais même 116 ans. Je dirais même 116 ans, Jean-François, exact. Si je peux me permettre d'être précise, puisque la loi sur la laïcité en France date de 1905. Donc, on aurait eu l'occasion de voir le ciel s'ouvrir et le doigt de Dieu, la main de Dieu venir foudroyer ces clercs qui auraient osé se départir de leur signe religieux. Or, en 116 ans, ça ne s'est point produit.
Oui, et puis ces religions continuent à se porter très bien en France. Alors, donc, c'est clair que c'est un, je veux dire, sans genoux, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi du juge et de la jurisprudence canadienne en faveur de la profondeur de la conviction religieuse. Et cet acte de foi-là, donc, guide des décisions de notre... Excusez-moi, ça sonne. Alors,
non, mais tu es tellement sollicité, Jean-François. Ça prouve simplement ton immense popularité. C'est pour ça qu'on apprécie que tu sois avec nous ce matin. Écoute, juste un dernier point également sur ce dossier-là du port des signes, c'est que une des plaignantes, ou enfin une des personnes qui contestait, c'était justement l'organisation des Sikhs et Amrit Kaur, donc cette enseignante qui a affirme qu'elle a dû s'exiler en Colombie-Britannique pour aller exercer son travail, alors qu'elle aurait très bien pu travailler ici au Québec si elle avait travaillé dans une école privée au lieu de travailler dans une école publique. Bref, Amrit Kaur, qui est une femme sikh qui porte le turban, alors qu'il y a zéro, je veux dire, c'est une infime minorité de sikhs qui portent le turban chez les femmes. C'est une obligation religieuse pour les hommes, mais ce n'est pas une obligation religieuse pour les femmes. Donc, à partir du moment où le juge Blanchard dit « c'est une obligation religieuse et pour ces gens-là, c'est une atteinte à leur âme », je pense qu'il y a vraiment matière à discussion, ne serait-ce que d'un point de vue philosophique. Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps. Jean-François, je veux juste parler d'un autre dossier qui peut-être, comparé au dossier de la loi 21, va paraître, superfétatoire ou un peu anodin, mais je voulais qu'on revienne ensemble sur quelque chose qui s'est produit. C'est que, on sait que Catherine Dorion de Québec solidaire est partie en croisade, donc, sur les discours toxiques dans les médias, mais... j'ai révélé sur Twitter cette semaine que quelqu'un qui est un attaché politique de Québec solidaire, responsable du numérique, il y a quelques semaines de ça, t'avais traité, et je m'excuse de le répéter, de moron et d'idiot dangereux à cause d'un texte que t'avais écrit dans Le Devoir. Donc, il s'est excusé à toi par la suite. Ouais, mais qu'est-ce que ça...
Il s'est excusé parce que ton tweet a été, surprenamment populaire. Et ça a été retweeté énormément. Alors, c'est devenu un problème politique. Alors, il s'est excusé, oui.
Ouais, mais quand même, qu'est-ce que ça nous dit, Jean-François, sur Québec solidaire, qui est un parti qui aime beaucoup, 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 beaucoup faire la morale aux autres, mais qui devrait peut-être faire attention parce que il voit la paille dans l'œil de l'autre, il voit pas la poutre dans leur dans leur œil. Bref, qu'est-ce que ça t'indique, ça, cet incident-là avec Québec solidaire?
Ben moi, quand les gens s'excusent, j'accepte leurs excuses, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai dit que j'avais eu des accusations bien pires que celles-là de la part de Québec solidaire au cours des années. Mais lui, il trouvait que l'article que j'avais écrit, c'était une bonne semaine pour l'islam sur trois événements. Donc, tu te souviens, la journaliste voilée à
Ginella Massa,
la domination, oui, c'est ça. Que donc pour lui c'était intolérable cet article-là. Il a pas dit que c'était des propos haineux, mais c'est un peu par là qu'il s'en allait.
Ouais.
Et que donc son insulte c'était équivalent. Et puis j'ai dit le problème avec des woke, pas tous, enfin mais des woke, c'est que ils savent pas la différence entre des arguments qu'ils trouvent choquants et des propos haineux ou de l'insulte. Ils voient pas la différence entre les deux. Moi, je lis, par exemple, quand Conrad Black écrit, je le lis, je trouve ça choquant, je suis pas d'accord avec lui, mais c'est pas des propos haineux, c'est juste qu'on n'est pas du tout, on n'a pas la même vision du monde, on n'utilise pas les mêmes arguments. La lecture de la Gazette, par exemple, un jour, mon médecin m'a dit « Arrête, c'est mauvais pour ta pression ». C'est rarement...
J'espère que tu les as pas lus ce matin, parce que, hey boy, ils se donnent à cœur joie contre la loi 21.
OK. Alors, je trouve ça choquant, mais je trouve pas ça haineux. Alors que les woke ont l'impression que si ça les choque, c'est de la haine. Et je me souviens d'un cas où j'avais un débat avec deux de ces personnes très très intelligentes sur un texte de Christian Rioux qui avait fait l'éloge de l'identité haïtienne, mais en disant l'identité haïtienne est tellement remarquable que il devrait pas se comparer aux rappeurs noirs américains qui sont en opposition, alors que les Haïtiens ont pris le pouvoir et sont devenus une nation. Bon, ça a beaucoup choqué des Haïtiens de Montréal, qui eux, se réclament d'une autre façon de voir leur identité. Et je trouvais que le débat était intéressant des deux côtés, mais ces personnes à qui je parlais disaient « ce sont des propos haineux ». Mais j'ai dit « c'est pas haineux, c'est une autre façon de faire l'éloge des Haïtiens, c'est une façon que vous n'aimez pas, puis vous pouvez le dire ». Mais et donc, même dans les exemples que Catherine Dorion a donné de choses inacceptables de la presse, elle a donné l'exemple de Denise Bombardier qui avait dit que c'était l'érigie sulfureuse du féminisme.
Mais il n'y a rien d'haineux là-dedans. On peut ne pas aimer ça, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a rien de haineux là-dedans.
C'est de l'opinion. Et d'ailleurs, c'est une opinion tellement décapante que moi, j'avais félicité sur mon blog Catherine Dorion d'avoir porté un T-shirt où c'est écrit.
Elle avait repris les mots de Denise.
Ben oui. Alors, écoutez, faites la distinction. Et donc, cette pétition-là d'un certain nombre de personnes qui demandent l'arrêt des amalgames et des propos intolérables dans les radios et sur les médias, on dit, bon, ben très bien, tout le monde pourrait signer ça. Mais comme l'a dit la Fédération professionnelle des journalistes, ça serait plus utile si vous nous donniez les cas, hein?
Ben oui.
Plutôt que de dire.
Ben c'est ce que je disais dans ma chronique. C'est ce que je disais aussi dans ma chronique. C'est le fameux W5 en journalisme. Qui a fait quoi, à qui, quand et comment? Oui. Parce que si c'est une affirmation générale, ben on n'a pas de cas précis, on peut pas réagir et surtout on peut pas se défendre. Jean-François, merci beaucoup. Je rappelle que t'es l'ancien chef du Parti québécois, que t'es chroniqueur, auteur et j'invite tout le monde à aller faire un tour régulièrement sur la boîte à Lisée. Merci beaucoup Jean-François, puis on se reparle vendredi.
Salut bien.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Marois Risky est députée du Parti libéral du Québec et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Et Dieu sait qu'en cette période de pandémie, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de l'éducation. Madame Risky, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous laisse le choix. Voulez-vous d'abord parler des salles de classe et de la ventilation ou vous voulez d'abord parler de vaccination? Je vous laisse choisir.
Bon, on pourrait peut-être commencer par vaccination, si vous voulez. Après ça, je vais avoir le temps de ventiler vers les classes.
Bon, alors vaccination, il y a vraiment un problème. On sait que le gouvernement du Québec veut que les enseignants puissent se faire vacciner. Par contre, parce qu'il y a un manque de suppléants, il y a certains enseignants à qui on a demandé de reporter leur rendez-vous. Vous avez une proposition qui est quand même assez simple. Ouvrons des plages dédiées au personnel scolaire en dehors des heures de classe. Pourquoi ça débloque pas, Madame Risky?
Bien, bonne question, parce que premièrement, le problème n'est pas généralisé partout au Québec. On parle davantage pour la région de la capitale nationale où des enseignants ont tenté d'avoir un rendez-vous, mais puisque c'est sur une base premier arrivé, premier servi, beaucoup d'entre eux sont retrouvés avec un rendez-vous en plein milieu de la journée, mais ils enseignent, même si les écoles sont présentement fermées ici dans la capitale nationale, il n'en reste pas moins qu'ils enseignent de façon virtuelle. Alors donc, ils ne peuvent pas s'absenter et on le sait, nous avons une pénurie d'enseignants, mais nous avons aussi une pénurie de suppléants.
Absolument.
On ne veut pas évidemment que nos enseignants quittent parce que ça laisserait en plan les parents et les élèves au premier chapitre. Alors moi, ma solution est assez simple. Pourquoi qu'on n'a pas des plages dédiées? Par exemple, 4 à 7 enseignants, on leur donne la priorité. Tout de suite après la journée de travail, ils peuvent aller se faire vacciner. Comme ça, ce serait des plages dédiées. Et on s'assurait que d'un point de vue logistique, les enseignants, durant les heures de cours, sont derrière leur écran avec leurs élèves. Et lorsqu'ils ont terminé, ils peuvent être rapidement vaccinés. Il faut savoir aussi, Mme Durocher, présentement, c'est une école sur 6 qui est soit fermée ou partiellement fermée au Québec. Donc, la priorité, c'est de les vacciner au plus rapide pour s'assurer de finir enfin cette année scolaire avec, on sait, même peut-être sur les chapeaux de roue, mais au moins, on l'aura terminé.
Et écoutez, il y a plein de médecins sur les médias sociaux. Je pense entre autres au docteur David Lucier qui dit à quel point c'est important parce que chaque heure qui passe, on n'est même plus rendu à dire à chaque jour qui passe, mais à chaque heure qui passe, on a des dangers évidemment de contamination. Et l'argument où on dit oh ben là c'est pas grave, les profs ils ont juste à aller se faire vacciner la fin de semaine ou aller se faire vacciner le soir, mais les gens qui disent ça se rendent pas compte à quel point c'est une course contre la montre et il faut le faire au plus vite.
Oui, et on ne s'en rend pas compte, mais c'est très populaire à la capitale nationale, la vaccination. C'est tellement populaire qu'on vaccine même de nuit. Donc, c'est difficile d'avoir une plage horaire. Je sais que dans d'autres régions du Québec, il y a peut-être des vaccinateurs qui tournent les pouces, mais pas dans la capitale nationale. Clairement, il y a un engouement, c'est une bonne nouvelle. Par contre, les seuls travailleurs là, qui sont en présence physique, en contact de façon obligatoire, qui ne sont pas en télétravail, ce sont les enseignants, sauf lorsqu'on bascule en virtuel. Alors, pour eux, là, nous, on sait, là, l'éducation, c'est une priorité. Alors, encore faut-il que les travailleurs essentiels qui travaillent dans les murs des écoles soient vaccinés de façon prioritaire. Et ça, c'est pas une solution, ce que moi, je propose, qui coûte de l'argent, qui a besoin d'avoir un décret spécial. Non, c'est quelque chose de tellement simple. J'ai même pas besoin de faire, vous rappeler tout le débat sur est-ce qu'on paye 4 heures supplémentaires aux gens pour être vaccinés. Il n'est même pas question de ça. Ça ne coûtera même pas d'argent, ma proposition. C'est simplement une question de logistique et de gros bon sens.
Oui, le fameux GPS, des fois, on a l'impression... je voulais dire le GBS. On a l'impression parfois...
C'est aux abonnés des absents.
C'est... parfois, il est aux abonnés absents, en effet. Bon, il y a tout le dossier de la qualité de l'air. Écoutez, quand même, c'est assez particulier ce qui s'est passé avec le ministre Roberge, la question des tests. Là, ce que vous réclamez, c'est qu'on puisse savoir... exactement quelle est la quantité d'écoles, de classes où la qualité de l'air n'est pas appropriée. Est-ce que le ministre Roberge va faire? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, le ministre Roberge, dans ce dossier-là de la qualité de l'air?
Dans un premier temps, non, je réponds à votre question, mais permettez-moi de faire une très courte genèse. La première fois que j'ai posé la question sur la ventilation dans un contexte de COVID-19, c'était ici à l'Assemblée nationale le 17 août dernier, donc l'été passé. Alors, et par la suite, je sais que le premier ministre m'a traité de obsédé sur les questions de la qualité de l'air, parce que c'est vrai que j'ai posé beaucoup de questions.
Mais on aime ça que vous soyez obsédée, Mme Risky. C'est une bonne obsession, c'est une saine obsession.
Vous savez quoi, Mme Durocher? J'ai lu les articles scientifiques et je les ai déposés en chambre ici. Pourquoi? Parce que depuis le mois de juillet, il y a eu des scientifiques internationaux, compris canadiens et québécois, qui ont dit que le virus se transmet principalement par aérosol. Or, moi, une fois que je connais le problème, ben, je regarde quelles sont les solutions. Et je sais que le gouvernement fédéral a transféré 432 millions de dollars pour rouvrir nos écoles de façon sécuritaire. Donc, dans ma tête et dans mon esprit, c'est que je sais que tôt ou tard, oui, ouvrir les fenêtres, c'est bien, mais je sais qu'on a des hivers rigoureux au Québec. Et parfois, là, c'est pas mal difficile d'ouvrir une fenêtre, surtout lorsque j'ai des écoles au Québec qui ont même
pas de fenêtres. C'est une aberration. Ouais.
Alors, moi, j'ai demandé, depuis le 17 août, qu'on achète des purificateurs d'air avec filtre HEPA. Vous savez, ce sont les mêmes purificateurs d'air avec filtre HEPA que la CNESST a demandé d'avoir chez les dentistes. Et ce sont les mêmes purificateurs l'indicateur d'air avec Filtripa qu'on retrouve à l'hôpital à Laval. Donc, je demande pas quelque chose là qui n'existe pas. Et je demande aussi des capteurs de CO2. Pourquoi? Parce qu'un capteur de CO2, ça me permet de mesurer est-ce que oui ou non, l'air a été suffisamment changé. Et savoir aussi quand est-ce le bon moment pour ouvrir ma fenêtre. Parce que durant l'hiver, là, ça ne nous tente pas d'avoir des enfants qui gênent dans une classe. Alors oui, il faut l'ouvrir lorsque c'est possible, mais encore faut-il savoir quand l'ouvrir. Les capteurs de CO2, j'ai fait le calcul. Ça coûte environ 100 $ acheter un capteur de CO2. Pour toutes les classes du Québec, ça nous aurait coûté à peu près là, 6 millions de $. C'est très peu coûteux. Et si on avait acheté des purificateurs d'air pour l'ensemble des écoles qui n'ont pas de ventilation mécanique, c'est-à-dire 60 % du parc école, ça nous aurait coûté environ 80 millions de $. Alors, j'ai fait ces propositions au ministre de l'Éducation. Je l'ai talonné à plusieurs reprises. Il a sauvé du temps pendant plusieurs mois en nous disant « Non, 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 je vais faire un rapport ». Alors, lorsqu'il nous est arrivé avec son rapport, la première chose que j'ai regardée, c'était sa méthodologie de travail. Donc, son premier protocole qui nous a dit, qui a été approuvé, validé par la santé publique et par la suite, on a découvert que c'était faux. Moi, je l'ai qualifié de bidon. Moi, j'étais gentille en disant que c'était bidon parce qu'un membre de la santé publique a dit que c'était un protocole qui était, et je cite, « broche à foin ». Et là, le ministre de l'Éducation, malgré que son protocole broche à foin qui, en fait, tire les résultats vers le bas, c'est-à-dire qu'il donne un meilleur portrait de la situation, quand même, malgré que ce protocole est broche à foin, 50 % de ces écoles sont présentement inadéquates. La qualité de l'air n'a pas été suffisamment changée. Et lui, ça, c'est l'aberration, là. Il dit « je vais attendre à l'année prochaine pour tenir compte des critiques sur mon protocole et l'améliorer l'année prochaine ». C'est maintenant qu'on est en pandémie. Alors, vous comprendrez ma frustration. J'ai l'impression de parler à un mur.
Mais tout à fait. Et de toute façon, tout ce dossier-là, on a... J'essaie de réfléchir à voix haute avec vous, Madame Risky. Je veux dire, tous les Québécois sont concernés par ce dossier-là, parce que soit on a des enfants nous-mêmes qui vont à l'école, soit on a des deux neveux, des nièces. On a, je veux dire, c'est le nerf de la guerre en ce moment, les écoles, à cause justement du très haut taux de transmission. Donc, on a de la difficulté à comprendre l'obstination du gouvernement dans ce dossier-là, le sorte d'aveuglement du ministre Roberge. La même façon aussi, les tests rapides, comment ça se fait qu'il y a autant de tests rapides qui dorment dans des entrepôts? Comment ça se fait qu'on n'est pas plus proactif dans ces deux dossiers-là?
Écoutez, même chose pour les tests rapides. Dès le mois d'octobre, j'avais demandé que nous, on tape du pied pour en recevoir rapidement au Québec pour pouvoir les utiliser. Principalement, moi, je voulais, évidemment, je défends mon réseau d'éducation. Je disais, on va l'utiliser pour garder nos écoles ouvertes de façon sécuritaire. Parce que oui, je crois que les enfants doivent être à l'école de façon sécuritaire. Puis, on doit tout faire pour les garder à l'école de façon sécuritaire. Alors, aujourd'hui, de savoir que nous avons des millions de tests que nous avons reçus d'Ottawa, que seulement 2% de ces tests-là ont été utilisés, 98% des tests dorment sur des tablettes, alors que aux États-Unis, désormais, on peut acheter un test rapide en pharmacie. Il y en a même des endroits qui en donnent des tests rapides. On a l'Institut de cardiologie de Montréal,
oui, qui, eux, l'utilisent
de façon intelligente. Et nous, on a un ministre Bucky qui ne comprend pas l'urgence de sauver nos écoles. Écoutez, si je mets bout à bout toutes les semaines d'école que les enfants ont manqué en moyenne au Québec, c'est plus de 12 semaines depuis l'année dernière.
C'est énorme. Puis, oui, et je veux attirer l'attention. Mais je veux attirer l'attention de tout le monde, c'est ça, c'est un texte très intéressant sur le site de Radio-Canada, c'est Thomas Gerbet. Donc, à l'Institut de cardiologie, on distribue des milliers de tests rapides aux employés et à leurs familles depuis le 2 avril, et tout le personnel donc est invité à se tester deux fois par semaine, même les personnes qui vivent sous le même toit. Les résultats sont donnés en 15 minutes. Imaginez, Madame Risky, demain matin, non, on n'attend même pas demain matin, aujourd'hui, du même, cet après-midi, le ministre Roberge dit tout le personnel soignant ou même dans les écoles, on donne ça à la rigueur aux élèves. En 15 minutes, on sait qui est porteur, qui n'est pas porteur. On vient de régler un maudit problème au Québec.
Absolument, mais la réponse du ministre de l'Éducation et du ministre de la Santé, c'est la suivante. Oui, mais ces tests ne sont efficaces qu'à 85 %. Mais dans mon livre, à moi, 85 %.
Ben oui!
C'est quand même mieux que 0%.
Que zéro? Je le sais, c'est à s'arracher la c'est à s'arracher les cheveux sur la tête. Et je me rappellerai tout le temps de cet exemple que Nima Machouf, donc épidémiologiste, avait donné au début de la pandémie quand on parlait, par exemple, du masque, quand on parlait de différentes mesures, en disant, ça donne un faux sentiment de sécurité parce que c'est pas à 100%, c'est seulement à 80 ou à 75%. Et elle avait dit, si vous rentrez dans une pièce et que il y a 100 personnes et que vous dites, il y a une méthode pour sauver 75 personnes dans la pièce, vous allez pas dire non, on le fait pas. Vous allez dire, j'aime mieux en sauver 75 qu'en sauver aucune. C'est exactement ça que le gouvernement est en train de nous dire, là.
Effectivement, puis moi, ce que je trouve quand même hallucinant dans toute cette histoire avec le ministre de l'Éducation, c'est qu'il accumule soit les retards, soit la négligence, soit les échecs. Que ce soit, par exemple, le retard au niveau d'avoir un protocole de qualité de l'air dès la rentrée scolaire, que ce soit d'utiliser les tests rapides dans nos écoles, que ce soit d'avoir acheté des capteurs de CO2, des purificateurs d'air, ou par exemple, même rappelons-nous de toute la saga entourant le démarrage d'un programme de tutorat vu qu'on le talonne pour que finalement...
Oui, c'est vous qui l'avez talonné.
À chaque fois, il est en retard. Mais vous savez quoi? On réfléchit à haut droit. On passe tellement de temps à sauver le soldat Roberge qu'on oublie de sauver le réseau scolaire. Et s'il avait été, et je vais le dire à haut droit, et je sais que ça va être gros ce que je vais dire, à la fin de la journée, moi, je garde en tête que Marie-Chantal Chassé, Mme Mécan, ainsi que Mme Roy, toutes elles ont eu des problèmes au niveau de communication. Elles ont été dégommées. Alors que M. Roberge a un problème de fond et de forme. Non seulement il est en retard, non seulement il est incompétent, non seulement il est négligent, pire que ça, des fois, il ment et il se croit. Alors, à ce stade-ci, je ne comprends pas l'entêtement du gouvernement à garder le ministre Roberge en poste alors qu'il a perdu la confiance du réseau et moi-même, je ne lui fais plus confiance.
Écoutez, c'est drôle que vous ameniez le dossier sur les trois femmes que vous venez de mentionner parce que c'était exactement là-dessus que je voulais vous amener. En effet, il y a des ministres en poste qui ont perdu leur job dans certains cas, dans le cas de Madame Chassé, qui ont perdu leur job sur vraiment beaucoup, beaucoup moins de ça. On se rappelle Madame Chassé, il a suffi d'une conférence de presse, puis on lui a montré la porte. Le ministre Roberge, j'aime beaucoup votre image. Pourquoi est-ce qu'il faut sauver le ministre Roberge? Marois Risky, écoutez, continuez à vous battre pour le fameux GBS, le gros bon sang. Test rapide, dépistage dans les écoles, aussi accélérer la vaccination des enseignants, la faciliter cette vaccination, leur mettre non pas des bâtons dans les roues, mais des petites roues pour aider que ça aille plus vite, vraiment ces trois dossiers extrêmement importants. Merci beaucoup, Madame Risky.
Merci à vous, au revoir.
Marois Risky, qui est députée du Parti libéral du Québec et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. En effet, la question reste entière. Comment se fait-il qu'après toutes ces gaffes ou ces semi-réussites ou ces échecs lamentables, comment se fait-il que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, est encore en poste et que même, il n'y a même pas eu une tape sur les doigts, là, même pas un blâme, même pas rien. Là. La question reste entière.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a deux membres de ma famille qui travaillent en CPE et même qui dirigent des CPE. C'est un dossier que je connais bien et je sais à quel point les gens qui y travaillent, les éducateurs, les éducatrices en garderie, à quel point ce sont des gens dévoués, bien sûr, mais aussi des gens qui ont une formation solide. Ça s'improvise pas sur le coin d'une table aller travailler en CPE. C'est pour ça que j'ai été très intéressée par une lettre qui est publiée ces jours-ci dans la section « Faites la différence » au Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est signé Danielle Combes. Elle est enseignante en technique d'éducation. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Combes.
Bonjour.
Je suis très contente de lire votre lettre. Vous écrivez « Des éducateurs qualifiés, s'il vous plaît, pour s'occuper de nos enfants ». Ce que vous déplorez, c'est que de plus en plus, on a dans nos CPE des gens qui, malgré toute leur bonne volonté, ne sont pas aussi qualifiés qu'on le voudrait pour prendre soin des enfants. C'est quoi le nerf de la guerre dans ce dossier-là, Madame Combes?
Ben, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Là, que le règlement, c'est deux membres du personnel éducateur sur trois, donc sur trois groupes d'enfants. Il y en a deux qui ont une formation, qui ont des qualifications et pas la troisième personne. Mais là, pendant la pandémie, ça a été diminué à un sur trois par manque de personnel. Donc là, ce qu'on on voulait que ça change, tout ça, le dent de la guerre, c'est aussi le salaire, parce que dans les formations, on a une grande baisse d'inscription au DEC dans toute la province du Québec, pas seulement dans mon cégep, mais partout. Des fois, ça peut aller jusqu'à des milieux, des écoles qui avaient 80 inscriptions, qui sont rendues à 20 inscriptions.
Ça
baisse parce que c'est pas attirant pour nos jeunes.
Mais non.
De commencer à 18 $ environ de l'heure et plafonner à 25. Alors que quelqu'un qui travaille dans un zoo pour surveiller les animaux va commencer en haut de 25.
Mais nous, travailler dans un zoo, attendez deux secondes, vous venez de dire quelque chose de tellement important. Travailler dans un zoo pour s'occuper des animaux, c'est plus payant que travailler dans un CPE s'occuper des enfants.
Tout à fait. Puis dans les CPE, les éducatrices et les éducateurs, en fait, ils ont une formation. C'est pas simplement de la surveillance. Puis ils font pas simplement occuper le temps. Ils ont une formation en stimulation du langage, développement de l'autonomie, l'inclusion, aussi des enfants qui ont des défis particuliers. Elles savent comment formuler des intentions éducatives. C'est quand même 3 ans d'études supérieures. C'est 22 compétences spécifiques. Et c'est important. Mais en même temps, la qualité, ça se paye, ça a un prix. Et présentement, au Québec, on l'a pas. On a plusieurs provinces qui veulent s'inspirer de notre...
On l'a vu dans le budget.
Oui, tout à fait. Mais nous, on laisse aller depuis quelques années parce que le manque de personnel, on en parle depuis plusieurs années, je dirais au moins 5 ans, qu'on fait des appels. Attention, on va manquer, les inscriptions diminuent. Mais là, tout d'un coup, le gouvernement s'est réveillé. Mais il est un peu tard. Là, eux, ce qu'ils proposent, c'est que dans 9 mois après la pandémie, ce qui n'arrivera pas demain matin, on s'entend, ça va être encore du 1 sur 3. Et après ça, ça va être 1 sur 2. Donc, un groupe qui a la chance d'avoir un éducateur ou une éducatrice qualifiée. Et l'autre groupe, s'il est chanceux, il va avoir quelqu'un qui a un petit peu de formation ou de l'expérience. C'est sûr que cette personne-là a un bon vouloir, mais il suffit pas d'aimer les enfants puis d'en avoir
pour
faire de l'éducation à la petite enfance à un groupe de 8 enfants.
C'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression, Madame Combe, et corrigez-moi si je me trompe, que de façon générale, dans la population, la majorité des gens ne sont pas conscients des compétences que ça prend pour s'occuper des enfants dans un CPE. Il y a beaucoup de gens qui pensent, comme vous venez de le mentionner, il suffit d'avoir des enfants ou d'aimer les enfants. Bon, parfait, demain matin, tu peux aller travailler dans un CPE. C'est à peine plus que juste être une gardienne, là. On surveille les enfants, on s'assure qu'ils se mettent pas un crayon dans l'œil, puis on leur donne à manger, puis c'est tout, là. Non, mais il y a pas aussi un problème de sensibilisation de la population à l'importance du travail qui est fait en CPE?
Tout à fait. Et ça fait plusieurs années qu'on demande au ministère une campagne de valorisation de la profession. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on parle depuis plusieurs années. Et moi, je fais partie du conseil d'administration de l'AETE, qui est l'association des enseignants et des enseignantes en technique d'éducation à l'enfance, et des représentations au ministère de la Famille. On en a fait souvent, on en fait encore. Mais c'est pas entendu. Dans la société, c'est ça, c'est pas entendu, on n'entend pas, puis souvent, même dans les médias, on entend parler des services de garde quand quelqu'un a fait une erreur, quand un parent, malheureusement, a laissé son enfant dans l'auto en allant à la garderie. Et là, on va en parler, mais c'est rare qu'on parle de toute la qualification de ces...
Vous avez tout à fait raison.
Des éducateurs, des éducatrices. On a des parents qui sont débordés parce qu'ils ont 2 enfants, mais les éducatrices, ils en ont 8 dans leur groupe.
Tout à fait. Mais des fois, les parents sont débordés, ils en ont rien qu'un. Je peux vous parler d'expérience personnelle. Moi, il y a des bouts où j'étais débordée quand mon fils était tout petit, puis j'en avais juste un. Mais je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit, parce que moi, je vous ai lancé en disant, dans la population en général, les gens ne sont pas conscients. Est-ce que vous êtes en train de me dire que même au ministère de la Famille, il y a des gens qui ne sont pas conscients de l'ampleur et de l'importance du travail des éducateurs, éducatrices en garderie?
Écoutez, j'ai pas sondé personnellement, mais en fait, les actions, les décisions qui sont prises ne démontrent pas qu'au ministère, on est conscient de tout ce que ça demande pour être un éducateur ou une éducatrice à l'enfance, même que en attendant que le 2 sur 3 revienne, alors que nous, on demande le 3 sur 3 depuis, je vous dirais, quasiment depuis 100 ans, là, tellement ça fait longtemps, ils vont valoriser la formation accélérée, qui est l'AEC, l'attestation, de 16 compétences au lieu de 22, faite de manière intensive sur 13 mois. Le problème, c'est que ce qu'ils apprennent, en une manière, n'importe qui, de manière intensive, avant de l'intégrer comme il faut, ça prend une répétition, des expériences, puis tout ça. C'est sûr qu'entre quelqu'un qui a zéro formation, on est mieux d'aller vers quelqu'un que la formation AEC, mais l'idéal, c'est d'avoir un DEC, d'avoir étudié pendant 3 ans, différents cours, plusieurs fois les mêmes compétences, pour bien les maîtriser.
Oui, non, c'est vraiment, on a l'impression que c'est une formation, c'est intéressant, mais ça n'est pas à la hauteur de la formation traditionnelle qui, elle, est offerte, et vous l'avez dit, c'est 3 ans d'études. Écoutez, vous faites une comparaison qui va peut-être faire sursauter les gens dans votre texte qui est publié dans le Journal de Montréal. Vous dites, c'est un petit peu l'équivalent de se faire opérer par quelqu'un qui a seulement un cours de premiers soins ou quelqu'un qui a terminé seulement 70% de son diplôme. Est-ce que vous permettriez à cette personne d'opérer votre enfant? Vous l'assumez, votre comparaison, Madame Combe, parce que c'est assez fort comme comparaison, là.
Oui, mais c'est la même chose. C'est comme moi, j'en ai... je me dis, disons qu'on a quelqu'un qui a besoin de prendre le taxi. Il a choix entre 3 voitures taxi. Une personne qui a son permis de conduire, qui a une voiture en bon état, tout ça, jamais perdu de points. Un autre qui a son permis, mais qui a souvent eu des pertes de points. Et l'autre qui a jamais conduit de sa vie, qui n'a pas de permis. Vous allez prendre lequel?
Ah, ça, j'aime bien cette comparaison-là. Ça, j'aime bien.
C'est la même chose.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, dans le point que vous amenez, qui était de faire une opération sur notre enfant, je trouve que la comparaison me plaisait moins. Je vous dis très honnêtement, là, je parle avec le fond de mon cœur, c'est que c'est pas nécessairement une question de vie ou de mort, mais je comprends que dans certains cas, ça peut l'être, parce que en effet, il peut y avoir des cas où les enfants sont à risque de s'étouffer, où il y a des enfants qui ont besoin d'une épipène ou des choses comme ça. Êtes-vous en train de nous dire qu'il y a des cas où, quand on est au 1 sur 3 ou 2 sur 3, qu'il y a des gens qui travaillent avec nos enfants qui n'ont pas la formation pour, par exemple, donner les premiers soins aux enfants?
Non, celle-là, elle est obligatoire pour tous les gens qui vont travailler.
Avec donc, il n'y a pas, moment où la santé ou la vie de nos enfants serait en danger parce que les gens qui en prennent soin n'ont pas reçu une formation adéquate. On n'en est pas rendu là quand même.
Non, pour tout ce qui est premiers soins, c'est sûr qu'au niveau de la santé, l'administration des médicaments, ces choses-là, ça fait partie de la formation. Et les milieux doivent décider, en fait, c'est dans le règlement, qui va avoir le droit de les donner. Habituellement, ils vont y aller en fait, avec la logique, j'espère, puis choisir des gens qui ont fait la formation à ce niveau-là.
D'accord. Mais quand même, il reste que ce n'est pas juste être avec des enfants, leur faire des petits coloriages, jouer avec de la pâte à modeler et basta. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donnez-nous un exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous, dans votre cégep, qu'est-ce que vous enseignez, par exemple? Votre plan cours pour aujourd'hui, c'est quoi? Pour les gens qui veulent devenir technicien en garderie, c'est quoi?
Mais en fait, moi, aujourd'hui, je fais du tutorat avec mes élèves, mais d'une manière générale, j'enseigne l'approche inclusive, l'intervention auprès des enfants, l'intervention là, à long terme avec les enfants, la communication avec les parents et les enfants. C'est des cours que je donne régulièrement. C'est important parce qu'un enfant qui a des défis particuliers, il faut savoir comment on va pouvoir le stimuler, l'inclure dans son groupe. Aussi, la communication qu'on s'adresse avec des parents, il faut avoir une communication qui va aller chercher la collaboration, le partenariat avec les parents et la famille. Mais ça s'apprend. C'est avec l'expérience, avec différents cours.
Ouais. Alors que si, en effet, on a un ratio de une classe sur 3 où les gens n'ont pas reçu cette formation-là, ou pire encore, deux classes sur trois où les gens n'ont pas suivi cette formation-là. Il suffit que notre enfant tombe dans une classe où l'éducateur, l'éducatrice n'a pas reçu la formation. Si notre enfant a des besoins particuliers, ben la personne qui s'en occupe ne pourra pas répondre à ses besoins. C'est ça que vous nous dites.
En fait, difficilement, en fait, c'est sûr que c'est des gens, ceux qui sont pas qualifiés, qui ont une bonne volonté, là. Ils vont là pas parce qu'ils vont là parce qu'ils ont l'intérêt à y aller avec les enfants, mais c'est sûr que en partant comme ça, ils n'auront pas toute la matière pour savoir exactement comment procéder. Ça va prendre quelqu'un pour en anglais les coacher un petit peu à ce niveau-là.
Oui. La chose la plus importante que le gouvernement devrait faire, Madame Combes, en réaction à votre lettre, ce serait quoi? Augmenter de façon conséquente les salaires des éducateurs, éducatrices en garderie? Ce serait votre recommandation, votre demande numéro un?
Oui, parce que je pense que ça fait c'est de la valorisation de la profession quand on fait ça. Augmenter les salaires, peut-être de changer éventuellement le règlement pour arriver à un 3 sur 3 de qualifiés. C'est ce qui serait le plus intéressant, le plus adéquat pour les enfants. Parce que quand on a un service de garde où les enfants ont passé 4 ans de leur petite enfance dans un milieu de qualité, bien, ça va faire que l'inclusion à l'école va être plus facile. Ça favorise l'apprentissage. Dans les CPE, on sème un petit peu des petites graines pour un peu plus tard, quand les enfants vont développer aussi leur pensée morale. Ces choses-là, ça se prépare.
Tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Ça se prépare et c'est au CPE que ça se fait. Et, ben écoutez, moi, j'aime beaucoup aussi l'idée, éventuellement, même assez rapidement, d'une campagne, parce qu'on est inondé en ce moment de campagnes de sensibilisation à ci, de campagnes de sensibilisation à ça. Pourquoi pas une campagne de sensibilisation, justement, pour nous dire, nous démontrer à quel point cet emploi-là, ce travail-là est crucial et essentiel au développement de nos enfants. C'est pas un petit truc là qu'on apprend sur le bord de la table entre deux tasses de café là. C'est vraiment une formation importante et ça fait une différence absolument énorme dans la vie des enfants. Je le disais au début de l'émission. Bon, je vais le préciser. Ma sœur est directrice de CPE. Mon beau-frère a été longtemps éducateur. Maintenant, il travaille aussi en supervision, donc plus un poste administratif, mais il travaille aussi auprès des enfants. Donc, c'est vraiment une réalité que je connais bien. Et donc, j'étais très contente de lire votre lettre ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, Madame Combes.
Ah bien, merci beaucoup. Je trouvais ça important de dénoncer à ce niveau-là.
Absolument. Alors, j'encourage tout le monde à aller lire cette lettre, donc, de Danielle Combes. Vous êtes enseignante en technique d'éducation à l'enfance. Merci pour le travail que vous faites, Madame Combes.
Bien, merci à vous. Bonne journée.
Et merci pour cette lettre-là. Et c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci à Rémi Poitras qui assurait seul aujourd'hui la réalisation et la mise en onde de l'émission. Merci à William Boivin à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, ben, c'est un rendez-vous. On se retrouve demain.
Cube Radio.